Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde, signent de gros contrats, écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants.
Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Marcellet et j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer encore une fois le 7e épisode des Dérangeants avec aujourd'hui donc Marie-Philippe Simard, fondatrice de Chic Marie.
Allô.
Carlo Coccaro, fondateur de Mathémo Monde et AiderSonEnfant.com.
Salut Pat.
Et David Côté, cofondateur de Loop Mission, Loop Mission de Rise Kombucha, de Cru d'essence et accessoirement super-héros. Donc aujourd'hui, le thème va être, c'est quoi votre prochain move? Ou si vous préférez, il faut en quelque part jamais s'asseoir sur ses lauriers. C'est un peu ce que j'ai compris en lisant ce que vous m'aviez envoyé. On va s'en parler dans les prochaines minutes. On va recevoir également un gars fascinant, Martin Hainaut, qui est chef de l'exploitation de Félix et Paul Studios. Mais c'est un gars également qui a eu un paquet d'épisodes avec la maladie mentale et je pense qu'il va accepter de s'ouvrir. Donc, manquez pas ça dans les prochaines minutes. Mais
et,
pour tout de suite...
Et pour tous ceux qui pensent qu'ils ont déjà accompli beaucoup dans leur vie...
Ah, sacramouillant.
Attendez d'avoir l'histoire de ce monsieur Hainaut.
37 ans seulement, hein, et 80-90 pays visités et tout et tout. Ouais. Non, c'est vraiment exceptionnel. Et pour l'instant, on va y aller avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Ben, coup de cœur, coup de gueule, les deux ouais. En même temps. Durant le temps des fêtes, comme 90% de la population québécoise, j'ai attrapé un rhume
oui. Et
une sinusite. Pris les médicaments pour la sinusite parce que ça partait pas. Et j'ai fait une réaction allergique aux médicaments. Moi, je le savais pas. J'ai jamais fait ça. Fait que je me suis réveillée un matin, j'étais rouge au complet. Tu sais, là, il faut que tu ailles à l'urgence, ça te tente pas. Fait que... Je me prépare mes affaires, tu sais, je me prépare mes films, puis je me dis, je vais passer là 20 heures, puis j'ai une couverte, puis j'ai des chips, etc.
Il y a du monde qui va au salon de bronzage pour être rouge au complet.
Ouais, mais c'était pas tout à fait le même feeling. Là, j'arrive à l'urgence, le gars me voit à la salle de triage, puis là, il me saute dessus, puis il se met 10 sous moi.
Ah ouais.
Parce que là, à cause que j'avais trop gonflé, j'étais obstruée à 75%, fait que je pouvais plus respirer. Fait que j'avais été arrivée 2 heures plus tard, là, vous auriez perdu 50% de l'effectif féminin des dérangeants.
Ben oui.
Fait que là, je suis restée là toute la nuit, puis ils m'ont supervisé, puis ils ont tout regardé ça. Puis le lendemain, j'étais supposée de prendre des pilules. Il fallait que, tu sais, je prenais du Benadryl. J'étais gelée un peu, puis etc. Quand tu prends plein de pilules, je suis encore un petit peu comme ça. Puis la réflexion que j'ai eue dans les derniers jours, c'est que ça me faisait chier d'être malade. Parce que j'avais pas le temps. Comme je suis loadée. Parce que, tu sais, les entrepreneurs, des fois, on n'a pas le temps d'aller voir nos amis ou notre famille. Hein? Puis on n'a pas le temps d'être malade, puis on est en crise parce qu'on est malade. Mais des fois, je pense qu'il faut que le corps, on l'écoute parce qu'il va t'en envoyer des messages. Fait que soit tu t'assis ou il va t'asseoir.
Et au bout du compte, moi, je suis convaincu que si tu te donnes le temps d'être malade, tu vas réaliser que tabarouette, il n'y a peut-être pas eu tant que ça de répercussions, sinon positives.
Je pense que c'est mieux de prendre un 3-4 jours, tu fais rien, puis tu repars.
Mais tu penses-tu que tu vas retrouver ton énergie ou ça, c'est comme perdu pour tout le temps?
Oui, c'est ça, c'est fini. Okay. Je vais toujours être là.
Okay.
Ça ira plus loin.
Super.
C'est la vie.
David Côté, coup de cœur, coup de gueule.
Après, tu fais de la comptabilité quand tu es malade à la maison. C'est pas plus
oui,
grave que
je fais de la comptabilité, c'est puis je joue au Xbox One.
All right. Ouais. Oui, salut tout le monde. Moi, j'ai un coup de cœur.
Bonjour David.
J'ai un coup de cœur, un coup de gueule. J'ai les deux mélangés ensemble. En fait, mon coup de gueule est pour le roi d'Espagne. Puis mon coup de cœur est pour le roi d'Espagne aussi.
Oh,
c'est bon, belle, c'est un concept.
Je ne sais même pas son nom.
Okay, bon.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait des années que ma copine est en amour avec les animaux. Puis en Espagne, ils ont la chasse. On appelle ça des galgueros. C'est des hommes qui font du gambling. C'est comme aller au casino, mais en place... Il élève des chiens pour chasser le lapin dans un champ. Puis celui qui tue le lapin puis qui le ramène, le gars, il gagne l'argent des autres. Mais c'est beaucoup d'argent. Puis c'est une tradition historique depuis toujours, ce qui fait que c'est légal là-bas, mais c'est une grande cruauté animale. En fait, ces animaux-là vivent dans des cages toute leur vie, puis ils apprennent juste à courir après le lapin, puis ils mangent juste du pain, puis c'est pas mal ça. Puis ils en tuent 50 000 par année. Ils en tuent beaucoup. Puis Ben, nous, on en a adopté un parce qu'il y a une espèce d'agence qui aide à les adopter, etc. Fait que c'est mon coup de cœur aussi, c'est qu'on a adopté un chien. Puis moi, j'étais pas sûr que j'avais le temps de
m'occuper. C'est le chien ou le lapin que vous avez adopté?
Le chien.
Le chien. Je pensais que c'était les lapins.
On pensait que t'avais sauvé un lapin.
Tu les lapins. Toi, t'es lapin, t'es l'esphère.
Par le fait même, je sauve un lapin qui se fera pas chasser par ce chien-là. Tu comprends? Mais, en gros, j'ai reçu un chien. Puis c'est un chien traumatisé, là. Tu sais, il l'a pas eu facile.
Mais quand
il
tu dis tu l'as reçu, comme ils l'ont chippé d'Espagne.
Ils l'ont chippé d'Espagne.
C'est le roi Philippe VI lui-même qui l'a.
Exactement.
C'est ça son nom.
C'est quoi, c'est Post Canada? Ils l'ont livré avec
carrément,
signature.
Express Post signature.
Carrément, c'est venu. Puis, en fait, on l'a sauvé, si on veut, de sa vie là-bas misérable. Et ce chien-là, à chaque jour, on le voit évoluer. Il est arrivé, il a cuit entre les deux jambes, il avait peur de tout. Finalement, il commence à s'ouvrir le cœur, etc. C'est beau à voir. Mais bref, j'ai le temps de m'occuper d'un chien, je savais pas, puis ça me rend tellement heureux que je suis très heureux. Il s'appelle Flaco. C'est un mot espagnol pour un grand slack. Oh. Il est grand puis il est maigre.
Mais là, si tu te promènes, mettons, dans un champ puis il voit un lapin,
il part. C'est ah, sûr, oui. 150%. C'est sûr qu'il part.
OK.
S'il voit une écureuil, c'est-tu le même
chien? Il part aussi. Okay. Oh, oui. Non, 100%. Oh, non, il vire fou.
Okay. Bon, on peut changer de sujet. C'est ça qu'on a fait le tour, là, des chiens de chasse qu'on
sauve. Non, mais il y a un message important derrière ça de comme, faut bannir ça.
Ouais, ben c'est banni, si.
Oui, en effet.
Carlo!
Hey, party pooper.
Coup de cœur!
Oui!
Parce qu'après mon coup de gueule de la semaine dernière, j'ai reçu comme une brique, puis un fanal, puis trois baguettes de français en colère. Fait que j'ai essayé d'y aller avec un coup de cœur.
Tu nous as parlé du système d'éducation français que tu jugeais inadéquat.
Exactement. Je voulais pas le dire pour que les gens aient écouté l'épisode.
Ah, d'accord, excuse-moi.
Mais en tout cas, merci quand même. Alors, mon coup de cœur, c'est à Ricardo. Ricardo, qui, dernièrement, on a vu qu'il avait des difficultés plus financières, ses revenus médias ont diminué. Moi, je le connais pas personnellement. J'adore sa recette d'ailes de poulet buffalo, que je conseille à tout le monde. Okay. Ça va super bien.
Oui.
Je vais juste donner mon coup de cœur, dans la mesure où il faut s'entraider entre entrepreneurs, surtout entre gentils. Puis il m'apparaît gentil, Ricardo. Il a l'air d'avoir une belle famille, puis il est gentil, tout ça. Il vit des difficultés. C'est facile de critiquer, c'est facile de cracher, mais je lui souhaite du succès, puis je donne une tape dans le dos. En espérant que ça aille mieux puis qu'il trouve des solutions dans son modèle d'affaires, dans son entourage puis dans sa vie.
Je savais même pas que ça allait mal pour Ricardo. Moi.
Ben, dans les médias, c'est apparu récemment des difficultés. Il est en recherche de près de 2 millions pour revamper son site web puis être un peu plus moderne dans un monde qui évolue tellement vite. Fait que, ouais, puis je donne mon coup de cœur. C'est gratuit.
Il
est fin de cœur. Prends-le, Ricardo.
Prends-le, Richard.
Prends-le. Gratto.
Merci beaucoup à vous trois. Dans quelques instants, on reçoit Martin Hainaut, chef d'exploitation de Félix et Paul Studios.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeants! La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée puis un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le Wi-Fi d'un café, manger du beurre de peanut. Mais quand on a un produit à développer, un site web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurpreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 $ et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte info@commercialfuturpreneur.ca.
Les dérangeants!
Les dérangeants.
L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'œuvre vous donne des maux de tête? Visitez la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca.
Notre invité d'aujourd'hui est chef à l'exploitation de Félix et Paul Studio, qui a été primé d'un Emmy Awards. On m'a dit, avant là, l'entrevue, on m'a dit, tu vois, c'est un peu le Guy la liberté de la réalité virtuelle jusqu'à un certain point. Il a également géré C2 Montréal, cofondé Intellitix, une entreprise qui est spécialisée dans le paiement électronique pour les événements. Bref, une histoire à succès incroyable, mais derrière laquelle se cachait pourtant un homme anxieux, en proie à des crises de panique. Martin Hainaut, bienvenue dans nos studios.
Merci beaucoup.
Écoute, 37 ans seulement, on se le disait avant de commencer l'entrevue. Et pourtant, tu as le vécu, tu as les expériences d'un gars tabarnouche, 60, 67. Tu en as fait en Christie tellement que on sait comme pas trop par où commencer cette entrevue-là, tellement il y a du stock, je trouve. Ça remonte à loin, Martin, les épisodes, les premiers épisodes de santé mentale. C'est pas juste avec le travail puis tout ça, là.
Non, moi, ça a commencé adolescent, mais je te dirais, ça a pris longtemps avant que je le comprenne qu'est-ce que c'était. Puis je dirais, ça fait probablement 3-4 ans que je peux dire que c'est plus sous contrôle que ce l'était. Mais pour moi, c'était une bataille à vie.
Tu nageais, puis tu avais des problèmes d'anxiété, entre autres, puis tout ça.
Oui, mais à cette époque-là, tu disais que c'est du stress, c'était pas de l'anxiété. Puis les mots ont changé à travers le temps. Il y a 20 ans, on parlait pas d'anxiété, on parlait de stress généralement, puis on comprenait pas vraiment c'était quoi des crises d'anxiété encore. C'est quand même des phénomènes récents, pas qui n'existaient pas à l'époque, mais qui étaient mal compris Non.
Puis on vit dans un monde d'apparence, tu sais, avec les Instagram, les réseaux sociaux, puis le concept de fake it until you make it, on l'entend beaucoup chez les dérangeants. Ça vient avec l'idée de faire semblant que tout va bien tout le temps, puis qu'on est au-dessus de nos affaires. Puis là, on voit de plus en plus d'entrepreneurs ou d'artistes qui affichent leurs défis, leurs faiblesses, leurs enjeux, comme toi avec l'anxiété, comme d'autres avec le TDAH ou d'autres. Les médias aiment ça, mais jusqu'à quel point ton entourage entrepreneurial, si on peut appeler ça comme ça, voit ça positivement?
Ils voient ça très positivement parce qu'ils m'appellent tous quand ils ont des problèmes.
Ah ouais.
Mais sincèrement, c'est ça que j'ai réalisé. Ça fait plus de 10 ans que je suis impliqué en santé mentale. Puis au début, je pensais, OK, tout le monde va m'appeler parce que c'est négatif. Mais réellement, à chaque fois que je fais un article, chaque fois que je fais un post, le monde m'appelle pour demander de l'aide ou pour me féliciter ou dire que je les ai aidés en le faisant. Donc, oui. ça a plus ouvert des portes pour moi. J'ai rencontré plein de monde que j'aurais jamais rencontré de ma vie parce qu'ils m'ont contacté par rapport à la santé mentale et qu'ils m'ont aidé dans mes entreprises par la suite.
Est-ce que tu vois une plus grande proportion de gens qui font de l'anxiété ou des problèmes de santé mentale chez les entrepreneurs ou chez les artistes, ou c'est pas mal comme la population générale? Là.
Je le dis souvent qu'il faut être un peu fou pour être entrepreneur. Donc, j'ai rarement rencontré un entrepreneur que je peux dire qui était parfaitement stable et qui avait aucun enjeu quelconque. Mais je pense que certains types d'emplois impliquent certains types de personnalités différentes également. Côté artiste, c'est sûr qu'un artiste qui tombe dans la création puis qui a besoin d'être seul puis qui s'isole, ben il y a beaucoup d'artistes qui tombent dans la dépression puis qui trouvent ça positif dans leur création. Pas que c'est positif qu'ils soient en dépression, mais t'apprends de tout pour domaine. Mais il y a des domaines qui ont en plus de gens.
Puis, chez les entrepreneurs, il y a beaucoup de gens flamboyants et extravertis. Moi, je ne te connais pas du tout. Je t'ai rencontré pour la première fois il y a 5 minutes et je te sens beaucoup plus introverti. Est-ce que c'est une force pour toi ou c'est plus une barrière à surmonter quotidiennement?
C'est pas une barrière nécessairement, mais je suis quelqu'un de très introverti qui est plus dans ma bulle à moi que de m'ouvrir. Puis pour moi, il y a 20 ans, de penser que j'allais donner des conférences, j'aurais préféré probablement me tirer une balle dans le pied que faire ça. Ça m'intéressait pas, puis j'avais peur de tout ça. C'est sûr que c'était un parcours pour m'y amener. Maintenant, j'aime ça. C'est plus une question que ça m'empêche, mais non, je suis pas quelqu'un qui a été extraverti, puis ça m'a jamais arrêté à quoi que ce soit. Ça m'a aidé.
On est en 2020, donc effectivement, je pense que les gens sont de plus en plus ouverts à ça, à la maladie mentale. On en parle beaucoup. Il reste que quand tu travailles chez Ticket Pro, il y a plusieurs années, t'as des centaines d'employés en dessous de toi, t'es dans la mi-vingtaine, et pourtant t'arrives chez toi, puis t'as des crises à ce moment-là. Comment tu te sens? Tu te dis, coudonc, tabarnouche, tout devrait bien aller, j'ai du succès, ça va bien, je suis dans la jeune vingtaine, c'est extraordinaire, et pourtant, j'y arrive pas.
À ce moment-là, je comprenais même pas c'était quoi les crises de panique. J'avais été à l'hôpital 3 fois à cause de crises de panique. J'ai fait tous les tests possibles, puis ils m'ont dit que tout allait bien, c'est que j'avais rien, donc je retournais chez nous à pas comprendre, c'est que je...
Puis on t'a pas dit, c'est peut-être des crises de panique, il y avait jamais. Pas ce symptôme-là qui était
C'est quoi les symptômes, justement, pour les entrepreneurs, peut-être qu'ils vivent, là?
Chaque personne le vit un peu différemment, mais les symptômes sont souvent l'impression de mourir, le fait que tu as l'impression que tu es en train de mourir, tu as des douleurs dans le bras gauche comme une crise cardiaque. Moi,
carrément.
Je perds la vue à un moment donné, même si je perds pas physiquement la vue, mais dans ma tête, je vois plus rien. J'ai des palpitations cardiaques très, très, très intenses. Je me mets à shaker.
Souvent, on pense que c'est dans la tête, mais c'est vraiment physique que ça se passe.
C'est physique.
Ça, c'est
mais est-ce que tu pourrais mourir de ça comme une crise cardiaque?
Non. Il n'y a pas vraiment de risque, mais tu peux en mourir. Par exemple, si tu en as une en conduisant, tu sais pas comment les gérer et que tu continues à conduire puis que tu perds la vue,
mais tu ne perds pas vraiment la vue, mais t'as peur.
C'est ça.
Tu t'investis avec Revivre pour aider les gens avec la santé mentale. Est-ce que pour toi, de donner puis d'aider les gens comme ça, c'est une façon de t'aider toi-même, c'est une façon? Est-ce que tu le vois comme un peu ton médicament d'aider les autres?
Ça m'aide beaucoup. Je n'avais pas réalisé au début que ça allait m'aider autant, mais je dirais que plus que j'en parle, plus j'ai fait d'apparitions publiques sur le cas, plus que oui, ça m'a aidé à me comprendre, puis surtout échanger avec les gens puis comprendre. Pour moi, le jour que j'ai compris que pas mal tous les entrepreneurs à succès à qui que je me disais waouh, un jour je serais peut-être à leur niveau, ont tous souffert de différents niveaux de santé mentale, je me sentais moins seul du jour au lendemain.
Je t'écoute puis je sens un peu un kamikaze. C'est-à-dire que tu avais ce problème-là avant même de commencer à être entrepreneur. Tu as commencé ta première entreprise à 16 ans, je pense, puis tu dis que tu es introverti aussi. Quelqu'un d'introverti qui a une fragilité émotionnelle, qui commence une entreprise à 16 ans, c'est un peu kamikaze, non?
Très kamikaze. Honnêtement, c'est un peu une dualité que j'ai toujours eue et certainement plus dans la vingtaine, dans laquelle que quand j'allais pas bien, je m'enfonçais dans le travail à pu finir. Puis c'était une façon pour moi de m'isoler du monde et de juste essayer de livrer le plus possible. Sincèrement, beaucoup de ce que j'ai accompli avant 30-35 ans, j'aurais pas dû, pour le bien-être de ma santé mentale, l'accompagner.
Parce que ton moteur, dans la recherche, ça disait beaucoup, c'était l'adrénaline. Oui. Tu étais addict à l'adrénaline, quitte à mettre ton corps en danger, quitte à mettre ton esprit en danger. Ma question est plus constructive, positive. Avec ce que tu sais aujourd'hui, comment garder, tu sais, pour les entrepreneurs qui sont aussi addictés à l'adrénaline, comment garder ce moteur-là, mais sans nuire à sa famille, sans nuire à notre entourage? Tu dirais quoi?
Je pense que l'adrénaline peut être positive, elle est moins quand que ça devient une drogue que tu es accro. Je suis accro à l'adrénaline. Si vous mettez sur l'adrénaline, j'en veux plus immédiatement, puis je veux pas me lâcher de l'adrénaline. Mais je dirais, le conseil, c'est d'apprendre à se connaître, puis de voir c'est quoi ses priorités dans la vie, puis de déterminer si c'est correct de dire, écoute, une semaine, je vais travailler 80 heures, je vais le dire à ma famille, à mon entourage, mais la semaine d'après, je vais être plus à la maison, puis je vais essayer de passer au-dessus de ça. C'est pas nécessairement négatif parce que beaucoup de recherches récentes démontrent qu'un entrepreneur, quand ils font des coupures du cerveau après la mort d'entrepreneur, ils voient que où que l'adrénaline passe dans le cerveau, c'est brûlé, c'est qu'ils sentent moins, c'est qu'ils ont besoin de toujours plus. C'est là que ça devient négatif, c'est comme une drogue quand t'en veux plus.
Qu'il y a de moins en moins d'effet puis qu'il brûle.
Martin, nous, tu l'as dit tout à l'heure, tu es introverti, tu es quelqu'un, je pense, là, d'assez, je veux dire, gêné peut-être un peu, je sais pas si c'est la bonne expression. En tout cas, introverti à tout le moins, ça c'est clair. Or, tu as œuvré, entre autres, à C2 Montréal beaucoup. Oui. Là, tu travailles, entre autres, pour Félix et Paul Studio. Donc, en réalité virtuelle, je suppose que tu as affaire à Los Angeles. Tu sais, bon, il y a bien du schmoozing dans ces affaires-là. Il y a bien du « Hey, bonjour », puis ça passe, ça jase. Or, je te vois, je te connais depuis 10 minutes, là. Je t'imagine assez difficilement dans ces contextes-là.
Je le fais, je l'ai toujours assez bien fait parce que justement, quand je suis dans ces contextes-là, j'ai une idée en tête claire, je le fais pas pour schmouser, je le fais dans des buts d'affaires concrets. C'est que je sais pourquoi j'y vais, je sais à qui je veux parler, je sais comment les accrocher, puis je m'en vais après. Donc, je suis pas dans le mindset de dire que je vais rester jusqu'à 4 heures du matin. Sincèrement, dans le milieu du spectacle, ça m'a beaucoup aidé dans les années que je travaillais sur des festivals comme Coachella, Bonnaroo, Lollapalooza et autres. Le fait que je faisais pas le party, que je disais à mes employés, personne boit pendant qu'on est sur des mandats et personne fait le party pendant qu'on est sur des mandats. On devenait les seules équipes sur les sites de festival qui étaient 100% là.
Qui était capable de...
Qu'on était capable de livrer et de pousser. Mais de l'autre côté, quand j'avais des gens rencontrés, oui, j'ai voyagé dans plus de 90 pays dans le monde. J'ai travaillé dans beaucoup de ces pays-là. Et oui, des cocktails, j'en ai fait des milliers à travers les années. Oui. Puis je suis confortable dedans, condition que je sais pourquoi je suis là. Si je suis dans un cocktail, juste pour être dans un cocktail, non, je vais disparaître assez rapidement.
Tout à l'heure, je faisais la comparaison avec le Guy Laliberté de la réalité virtuelle, mais Guy Laliberté, c'est aussi autre chose. C'est la flamboyance, c'est les parties, c'est pas toi, ça.
C'est l'espace.
C'est l'espace.
On est dans l'espace, en ce moment. On filme un documentaire dans la Station spatiale internationale actuellement.
Ah oui.
On fait le plus long projet de l'histoire dans l'espace, le projet média de l'histoire dans l'espace en ce moment. Mais non, pour moi...
Merci d'être là avec nous aujourd'hui.
Merci d'être
descendu. En fait, c'est un hologramme.
Mais je crois pas à l'image que l'entrepreneur doit être flamboyant, doit vouloir faire le party. Je trouve que c'est toxique. Puis même l'image du super-héros entrepreneur, je trouve que c'est toxique. Puis c'est de quoi qu'on doit sortir de comme société. Il y a moyen de passer une compagnie, oui, en faisant des heures de fou, mais en s'ajoutant pas tout le stress d'être un super-héros pour tout son entourage.
Et toutes les responsabilités.
Qui viennent avec.
Qu'est-ce qui te drive aujourd'hui en 2020? C'est quoi qui t'allume, là, puis ta passion, c'est ta mission personnelle, là?
C'est certainement changer les mentalités en santé mentale. Je dirais, cette année, je vais mettre beaucoup, beaucoup d'énergie pour changer la notion d'être entrepreneur et la relation avec la santé mentale de tout ça. Comment tu peux être humain en étant entrepreneur? Je vais aussi changer la relation avec l'argent qu'on a parce que en tant que pas juste entrepreneur, n'importe quel exécutif d'affaires, on a peur de s'ouvrir comme humain parce que les banques, les investisseurs et autres vont nous nuire si on est honnête envers nous-mêmes.
Dès qu'on montre des faiblesses, on dirait qu'ils rentrent là-dedans.
Exactement. Il y a minimum 30% de la population qui souffre de santé mentale en ce moment. Puis quand tu calcules tous les différents troubles, c'est beaucoup plus haut que ça. Donc, si tu regardes dans une entreprise que 100 personnes, il y en a 30 potentiellement qui souffrent ou qui vont souffrir dans les prochaines années. Dans ce contexte-là, c'est juste d'être menteur, hypocrite, de prétendre que tout le monde va bien puis qu'on va bien comme personne. Donc, je veux ouvrir le dialogue avec des grandes instances financières dans lesquelles on va changer la façon qu'on traite la santé mentale et le fait d'être humain dans les entreprises.
C'est quoi ton rapport par rapport à la médication des troubles mentaux? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce qu'on va trop loin?
C'est une grosse question qui peut être répondue de différentes façons. La médicamentation est nécessaire dans bien des cas, elle ne l'est pas dans d'autres. Le fait est qu'en santé mentale, tu casses un bras, tu fais un rayon X, puis ils disent, c'est un bras cassé, on va te faire un plâtre. Tu souffres de dépression, tu vas voir un médecin qui n'est pas nécessairement formé là-dedans, qui va essayer de te trouver un spot pour aller voir quelqu'un qui connaît ça, mais même là, même si tu vois le meilleur psychiatre au Québec...
C'est invisible.
C'est invisible. Il va te poser des questions. Si tu mens dans tes réponses, il ne peut pas vraiment le savoir. Il le sait par expérience. C'est que ça fait en sorte que c'est dur de bien médicamenter les gens. Qu'est-ce que Étienne Crevier fait avec Biogénique est extraordinaire, justement, parce que ça permet de voir au moins quel médicament fonctionne pour la personne. Mais ce n'est pas une réponse facile parce que chaque personne a des besoins différents.
As-tu l'impression que de t'être ouvert comme ça, tu le disais tout à l'heure là, avec les institutions financières notamment, ils attendent que ça des fois pour rentrer dedans. As-tu l'impression que ça a joué parfois contre toi au niveau affaires?
Rarement. C'est arrivé quelques fois, puis généralement, ça s'est retourné comme un avantage pour moi par la suite. Et sincèrement... Maintenant, j'ai un avantage qui est le fait que j'ai été mis sur la première page du Journal des Affaires. J'ai fait des articles dans le Journal de Montréal, la presse récemment. Donc, quand tu as un micro, les gens ont plus peur également de partir en croisade contre toi. Puis ils savent que l'opinion publique est de plus en plus du côté de la santé mentale et non contre. Donc.
Ouais, puis attache ta tuque, tu vois, c'est rien, toi, la presse, le Journal de Montréal, à comparer une entrevue avec les dérangeants.
Oui, c'est ça.
Tu vas voir l'impact.
J'aimerais ça creuser comme l'entrepreneur puis le gestionnaire en toi. Tu as œuvré dans beaucoup d'industries qui amenaient des dérangements, entre autres avec le RFID de tes entreprises. C2 Montréal, c'est comment dealer, comment gérer le changement qui est perpétuel. Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent pour éviter d'être surpris par les changements technologiques, entre autres, en tout cas les dérangements de modèles d'affaires qui systématiquement vont survenir dans leur domaine?
C'est justement, on sait tous que ça va être systématique, que ça va survenir. C'est que c'est de jamais considérer que quelque chose qu'on a en ce moment va être encore là dans un an, deux ans, trois ans. C'est toujours se poser la question sur qu'est-ce qui pourrait changer mon domaine actuellement? Quelle chose qui pourrait arriver, qu'on change gauche sans qu'on le voit arriver, qui peut venir changer? Il y a aussi la question de ne pas être trop vite dans ces changements-là. Quand j'ai parti à Intellitix en 2009-2010, quand on arrivait sur des festivals comme Coachella, il n'y avait même pas de Wi-Fi ou de réseaux qui permettaient de connecter les différents points. Parce qu'il a fallu qu'on développe la technologie pour connecter ces grands festivals-là ensemble, en plus de la technologie de contrôle d'accès, en plus de paiement. On était honnêtement 7-8 ans trop tôt dans le marché.
Ah, ouais.
On a réussi à ramasser tous les festivals. On était les premiers au monde à faire ça à grande échelle. Et c'était une aventure extraordinaire pour moi. Mais au bout de 2 ans et demi, j'ai réalisé qu'on était 5-6 ans en avance sur le marché. Puis de pouvoir amener une nouvelle idée allait prendre quelques années avant que les gens soient prêts à l'absorber. Ouais. Donc, c'est aussi d'être capable de pas trop sauter en avant en pensant d'aller trop vite, mais aussi de voir que quand on fait la même affaire depuis plus qu'un an, mais il y a probablement quelque chose à changer.
Dans ton entreprise actuellement, est-ce que tu le fais systématiquement comme un genre de groupe de discussion à l'interne avec tes seniors ou tu le fais toi-même? Comment tu concrètement est-ce que tu gères les bouleversements dans ton industrie? Parce que la réalité virtuelle, ça commence... Des bouleversements, vous allez en connaître, là.
On connaît un bouleversement par jour, à peu près.
C'est ça.
Puis on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. C'est qu'on en parle fréquemment. Je dirais, chaque 2-3 semaines, dans nos rencontres exécutives, on parle de OK, qu'est-ce que Apple va faire, qu'est-ce que Google va faire, qu'est-ce que HP s'en va lancer, OK, qu'est-ce qui est arrivé à CES, qu'est-ce qui peut arriver à CES. Réellement, comme qu'on est dans une industrie qui est très, très, très jeune, on crée nous-mêmes aussi certains de ces changements-là. Puis pour moi, ça a toujours été ma préférence, c'est d'être lui qui crée la vague et non lui qui attend que la vague arrive pour frapper.
Je reviens à Intellitix. Tu as évoqué Coachella tout à l'heure, bon, le Lollapalooza et tout ça. C'est quoi les réactions de ces dirigeants-là quand le Québécois arrive en disant hey, « j'ai un produit à vous montrer ». On te prend-tu au sérieux?
C'était intéressant parce que le premier festival qu'on a fait, c'était le Festival d'été de Québec en 2010. Puis c'était un prototype qu'on a fait parce que la grosseur du festival cette année-là avec Black Eyed Peas, Iron Maiden, Rammstein, Arcade Fire, Billy Talon, c'était tous des gros noms. Et c'était une première fois à ce niveau-là qu'on amenait la technologie aussi complète. Puis,
parle-nous excuse-moi, là, juste pour situer les gens, la technologie en question, qu'est-ce que c'est?
Donc, la technologie en question, c'était au lieu d'avoir des codes-barres sur des billets, d'avoir des puces RFID dans les bracelets qui faisaient en sorte qu'on pouvait accélérer grandement le temps que ça prenait pour les gens rentrer en événement, puis éventuellement de pouvoir payer, faire des activations aux médias sociaux. À cette époque-là, les cellulaires ne marchaient jamais en événement. Ça marche toujours pas très bien, mais c'est qu'on permettait de faire des posts sur Facebook ou sur Twitter à travers son bracelet, sur des bornes et tout. Et suite au Festival d'été de Québec, une relation de mon ancien partenaire d'affaires, cofondateur d'Intellitex, demandé comment ça a été, puis le email de réponse qu'on a envoyé s'est ramassé des mains du producteur de Coachella, qui nous dit « Peux-tu venir à LA présenter ça? » C'est que j'ai pris l'avion pour LA pour une compagnie qui n'avait pas encore de nom à ce moment-là pour présenter l'idée qu'on avait. Puis il a dit ben, « J'aimerais ça revenir à Montréal puis voir plus, parce que j'avais amené des mini-versions de nos gates de contrôle d'accès. » Puis il disait « J'aimerais vraiment voir le tout. » Puis finalement, il est venu à Montréal avec des représentants de Bonnaroo, Lollapalooza, puis Austin City Limit, qui sont les quatre plus gros festivals aux États-Unis. Et à force de discussion, on a signé les quatre à la première année réelle d'opération. Donc,
avant que vous ayez un nom.
Non, on avait un nom à ce moment-là. On avait un nom. En fait,
vous l'avez fait dans l'avion en revenant.
On avait fait une démo. À l'époque, j'étais fait partie de l'équipe qui produisait Bodies et Titanic, qui était qui est le musée Grévin au Centre Eaton. Et on était entre des expositions à ce moment-là. C'est que j'ai mis des grandes bannières Intellitex à grandeur du Centre Eaton pour la visite pendant 3 heures, puis qu'on a enlevé en sortant. En prétendant que c'était...
C'est la police qui les a enlevés.
Qu'est-ce qui a été l'élément marquant pour eux? Le prix, la technologie?
Honnêtement, l'élément marquant, c'était que d'autres compagnies parlaient de faire cette technologie-là. On était les seuls qui l'avaient fait, qui l'avaient testé avec 150 000 personnes. Mais en plus, notre compréhension de la production d'événements, on n'était pas une compagnie de technologie. Ça a toujours été un peu ma spécialité, c'est de comprendre autant l'opération que la technologie. Ce qui fait en sorte que quand ils m'ont demandé « qu'est-ce que tu fais? » OK, il y a des systèmes de backup pour tout, tout est redondant et tout, mais mettons qu'il y a un truck qui rentre dans une clôture, ça pogne en feu, ça coupe l'électricité sur le site au complet, les génératrices explosent parce que le truck a frappé la ligne de gaz. Qu'est-ce qui arrive? Puis j'ai répondu, ben on va faire semblant de scanner. Puis ils m'ont dit, ben, OK, comme t'as un système de cette complexité-là, de ce prix-là, que tu vas faire semblant. Je dis, ben, si t'as 50 000 personnes en file devant toi qui ont tout accès à Internet, si tu commences à dire les gate de Coachella ou de Bonnaroo fonctionne plus, ils vont tous texter leurs amis, puis vous allez perdre contrôle du site. Si on fait semblant, vous allez bip, bip, quand quelqu'un rentre, ben personne ne va s'en apercevoir.
Genre ça quelqu'un
va continuer.
Fait le bruit.
Wow. Mais ils ont compris l'intelligence d'affaires puis d'opération pour dire qu'il va pas faire chier notre spectacle. Si nous, on fait une erreur, parce qu'il va être capable de comprendre.
Parce qu'il comprend c'est quoi la réalité du show. C'est
là qu'on revient à l'honnêteté.
C'est
ça.
Martineau, j'ai envie de boucler la boucle. Je regarde le temps passer. Je sais que... bon, évidemment, tu as parlé beaucoup de tes problèmes mentaux. Je sais que ça a continué encore, ces deux, Melbourne, etc. T'sais, ça s'est pas arrêté, malgré le fait que tu en prennes conscience. Est-ce que tu as le feeling que ça va faire partie de ta vie pour la vie?
Tout à fait. Ouais. Puis j'ai grandi énormément comme personne grâce à ça. Ça m'a appris énormément sur moi-même, sur les gens autour de moi, qui m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais eu le gosse de faire avant. Donc, je le regrette pas. Je dis pas que c'est un cadeau. Je préférais pas avoir à dealer avec ça. Mais en même temps, ça m'amène tellement que je le regrette pas.
Tu l'acceptes, ce qui va se passer encore et encore et encore.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Merci d'être venu
merci
comme
Martin.
Ça.
Merci à vous
autres. Merci. Martin Hainaut, donc chef de l'exploitation de Félix et Paul Studios.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeants!
Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP. La référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca.
Les dérangeants!
Les dérangeants.
Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
De retour avec les dérangeants. Et avant de passer au débat, la question dérangeante, chers amis. À ce jour, quel est le plus grand sacrifice que vous avez fait pour votre business?
Le silence.
Ben oui,
il y en a, il y en a.
Il y en a tellement, mais le plus grand. Celui là, que tu regrettes même peut-être un peu.
Ben, tu sais, tout ce qui est personnel, là. Amis, conjoints, famille, c'est sûr que un moment donné, ça te rattrape. Là. C'est sûr. C'est un choix. Tu peux pas. t'as 24 heures une journée. Tu peux pas tout faire ce que tu veux tout le temps.
Okay. Fait que toi, t'as sacrifié tes amis.
Pas toutes, là. J'ai encore une vie sociale, je vous rassure. Okay.
Mais, malgré sa baisse d'énergie, elle a réussi quand même à conserver les quelques amis qui lui restaient.
Mais c'est sûr qu'il y en a qui ont pris le bord, là.
OK, OK, OK. David?
C'est rare que je sais pas quoi répondre. Ça me rend vraiment heureux ta question. On dirait que je sacrifie pas grand-chose.
Ah ouais, de toute façon, t'as pas d'amis.
Ben, moi, j'ai rien envie, fait que j'ai rien eu à sacrifier, carrément. Non, mais étrangement, c'est drôle, je sens pas que j'ai sacrifié grand-chose. À part mon sommeil un petit peu, là, ouais. je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ma réponse. Je pense que j'ai sacrifié des heures de sommeil.
Mais ta blonde est dans business, ça serait sûrement différent si elle était pas dans business. Là, peut-être qu'il y aurait des sacrifices différents.
Mais j'aurais pas de blonde si elle était pas avec moi.
Ah, bon, tu vois quand même.
Mais il y aurait un chien, par exemple.
Peut-être pas, parce que c'est elle qui est allée chercher en Espagne, on ne sait pas. Ah.
Et les heures de sommeil, puis je conclue avec ça, est-ce qu'elles ont vraiment été sacrifiées à cause du travail ou des fêtes?
Non, non, à cause du travail. Ah, oui, carrément. Oui. Okay, mais pour moi, la fête, c'est le travail. Là.
Ah, d'accord. OK, OK, OK. Carlo. C'est un regard avec un clin d'œil. Carlo, toi.
Moi, mon premier réflexe, ce serait de dire le contraire. J'ai tellement voulu ne jamais rater ma famille. Puis moi, j'ai une famille depuis longtemps. J'ai 3 enfants. Le plus vieux a 10 ans. Je suis marié depuis 12-13 ans. Que c'est l'entreprise, moi, que j'ai souvent dit, ce serait peut-être pas vrai, mais ce serait 2-3 fois plus gros si j'avais pas eu de famille. Moi, la coupure est simple. Il y a des semaines où j'empiète sur l'un sur l'autre. Peut-être un peu les relations sociales, parce que souvent, je vais dire, moi, j'ai mon entreprise, j'ai ma famille. Ouais. Entre les deux, j'ai pas beaucoup de temps. Fait que, c'est sûr, je n'ai pas de ligue de hockey à laquelle je vais, ou des fois, je m'entraîne moins que je voudrais. Moi, c'est plus l'inverse, le sacrifice.
Et de la question dérangeante, on passe au débat. Je vous avoue qu'il y a des thèmes qui parfois m'apparaissent évidents. On a parlé du doute dans le dernier épisode. Cette fois-ci, quand vous m'avez envoyé ça, c'est quoi ton next move? Dans le fond, c'est quoi ta prochaine décision? Je n'étais pas sûr que je saisissais exactement ce que vous vouliez dire là-dedans. Et ce que j'ai compris en regardant ça, dans le fond, c'est pas s'asseoir sur ses lauriers, c'est de s'assurer qu'on s'endort pas jusqu'à un certain point. C'est un peu ça l'idée, non?
Ben, même quand tu as un modèle d'affaires, je vais reprendre mon exemple de mon coup de cœur de Ricardo. Ricardo, c'est un des sites web francophones les plus consultés au Canada,
oui.
Même en Amérique du Nord probablement. Des revenus steady provenant de plusieurs sources, publicitaires, du matériel, de la bouffe en épicerie, ses émissions de télé. Il s'est probablement, puis je dis pas ça loin d'être méchant, au contraire, c'est probablement endormi un petit peu sur son modèle d'affaires. Il a pas vu la vague, puis des vagues, il y en a à chaque 3 jours, là. Il a pas saisi la bonne vague pour que ce modèle d'affaires-là évolue bien.
Après l'avoir saisi régulièrement, pourtant.
Exactement, exactement. Ouais. Puis c'est là où le next move, dans ma tête à moi, maintenant, en 2020, je me dis, faut toujours penser au next move. C'est pas comme, le présent n'existe pas. Le présent, c'est le day-to-day qui se fait tout seul, quasiment. C'est mon rôle à moi, comme Carlo l'entrepreneur. Moi, je me rends compte que je suis bon dans la vision. C'est toujours, toujours penser au next move pour être sûr de ne pas être pris les culottes à terre.
Et je suppose qu'il y a des domaines, puis je comprends que chaque entrepreneur doit être comme ça, mais il doit y avoir des domaines où c'est encore plus vrai. Je te regarde, David, je pense à toi, où est-ce que le kombucha, tout ce qui s'appelle le recyclage, c'est très en vogue en ce moment. Non, mais c'est vrai.
Le recyclage.
Ça, c'est trompé.
C'est vrai, non, t'as raison. Mais en fait,
tu recycles pas des légumes, toi,
écoute
pas?
Oui, absolument. Bon. Mais j'écoute Carlo, puis dans ma tête, un entrepreneur, dans son ADN, peut-être que je fais de la projection, là, mais c'est dans son ADN de penser au next move. C'est pas quelque chose qu'il faut qu'il se force à faire. C'est quelque chose que naturellement, en tout cas, moi, dans ma vie, ça a toujours été un problème pour moi. Le next move est toujours maintenant. Ce qui fait que c'était mon équipe qui écopait de mon côté next move. C'est que moi, je suis toujours dans le next move. Je suis toujours en train de penser au prochain projet, à la prochaine affaire. Puis il faut toujours que je me ralentisse. Puis c'est ce que je vis en ce moment. Aujourd'hui, là, en 2020, début 2020, il faut que je ralentisse toutes mes next moves, puis toute mon équipe, puis tout même mon board de directeur. Je dis, OK, David, arrête. Là, faut qu'on gère ce que tu as créé maintenant. Tu as créé un monstre, puis là, faut le gérer. Faut qu'il s'opère. Faut qu'il soit fluide. Puis là, c'est trop intense, puis la croissance va trop vite. Fait que pour moi, ça me surprend qu'on ait besoin de se forcer à réfléchir au next move parce que c'est dans la nature.
Il y a plein d'entrepreneurs. Ouais. Tu sais, on pense à Blockbuster, là. T'sais, ça allait super bien, ça allait tellement bien, t'es numéro 1 au monde. La vague était là, puis est arrivé. Netflix, le gars de Netflix est allé le voir pour lui proposer de faire un partenariat. Il a dit non, c'est pas important. Il s'est fait ramasser, là.
Mais souvent, c'est que ces personnes-là, soit qu'ils ont vendu ou ben ils ont mis l'argent dans les poches, puis ils sont plus passionnés par ce qu'ils font, ce qui fait qu'ils sont plus là. Fait que c'est un board ou un CEO qui est engagé, qui gère la stabilité. Mais l'entrepreneur qui a fondé la chose, en général, il est souvent ailleurs.
Mais je suis pas d'accord.
Pas d'accord?
il y a deux types d'entrepreneurs. Tu as des opérateurs, des intégrateurs, puis tu as des visionnaires. Il y a plus de visionnaires que d'opérateurs, puis il y en a des entrepreneurs qui sont des opérateurs. Eux, là, sont bons pour gérer une business, puis il y en a d'autres, comme toi, moi, on est plus dans la vision. Puis c'est là où ton biais est comme centré sur toi. Mais puis, la majorité des entrepreneurs sont comme ça, mais tu as peut-être un 25 % d'entrepreneurs qui sont des opérateurs, puis eux, leurs enjeux, c'est justement de dire « mon entreprise est super bien gérée », mais ils ne voient pas le piège qui s'en vient devant. Puis c'est là de bien s'entourer.
Bien, c'est ce que j'allais te demander à ce moment-là. Est-ce que l'objectif d'un opérateur, comme tu l'appelles, c'est pas de s'assurer ou de s'associer ou d'engager un visionnaire, Marie?
Oui, puis c'est toujours une bonne équipe. On parle de CEO, donc Chief Executive Officer, puis un COO, donc quelqu'un qui va faire les opérations. Il faut savoir dans quoi tu es bon. Moi, je ne suis pas bonne dans les opérations. Je suis capable de le faire, puis ça va être très bien fait, mais j'aime pas ça, ça m'emmerde. Fait que c'est pour ça que je vais chercher quelqu'un qui est là-dedans. Puis tu sais, on parle de Next Move. Moi, ce que je trouve intéressant de ce sujet-là aussi, c'est de dire, OK, tu as ta business, ça va bien, tu as une belle croissance, mais qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu lances un nouveau produit? Est-ce que tu lances un nouveau marché? Est-ce que tu vas en Europe? Est-ce que tu vas aux États-Unis? Est-ce que tu restes au Québec, mais tu pars d'autres choses ici? Tu sais, c'est toutes des questions que les entrepreneurs se posent. Puis chacun a sa stratégie. Puis chacun est comme un arbitre de hockey, tu sais, qui dit, ben non, faut que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça. Fait que c'est de ça qu'on parle un peu.
Mais parlons de toi, justement, tu sais, dans l'industrie du vêtement présentement.
Ouais.
Ton next move, ce serait quoi en ce moment?
Mais tu vois, moi, quand j'ai lancé Chic Marie, il y a 5 ans, tout le monde, surtout des entrepreneurs un petit peu plus vieux, ils disaient, faut que tu te concentres sur un marché, tu deviens le numéro un dans ton marché, puis après ça, si ça va bien dans 15-20 ans, tu vas aller plus gros. Mais elle est plus comme ça, notre réalité. Nous, on a commencé avec Chic Marie au Québec, puis c'était une erreur. Parce que notre brand était très, très québécois. Il est encore très québécois. Nos articles de journaux sont québécois. Tout ce qui est associé à Chic Marie est québécois. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait de la misère à sortir dans le Canada anglais parce que les Canadiens anglais, pour une raison obscure, achètent pas des Québécois. Tu sais, la différence.
C'est pas si obscur que ça, je te dirais.
En tout cas, ouais, on partira pas sur le référendum, mais.
Ouais,
tu sais, je t'explique. Ouais, achètent pas des Québécois. Fait qu'il a fallu qu'on se repositionne, puis on a dit, ben, gars, on va partir un nouveau brand qui s'appelle Jenny's Pick, avec un modèle d'affaires un petit peu différent, puis qui va être pour le Canada anglais. Mais tant qu'à être dans le Canada anglais, ça change rien d'être aux États-Unis, à part les douanes, puis, tu sais, s'il y a des questions plus techniques, on en parlera, mais ça change rien. C'est pas plus difficile, c'est pas plus long, c'est pas plus cher. Fait que tant qu'à ça, on a lancé partout. Puis là, tu vois, on a des clients du North Dakota, on a des clients de l'Ohio, on a des clients de Val-d'Or, on a des clients de Calgary, puis c'est pas plus difficile à gérer. Fait que, tu sais, des fois, je trouve qu'au Québec, surtout, on a peur de cette croissance-là, on a peur d'aller trop vite, trop loin. Mais c'est souvent, là, on a plus de peur que de mal.
On se fait toujours dire que c'est dangereux, puis il faut que tu fasses attention, puis il y a dormant du monde qui se sont plantés, fait que fais-le pas trop vite, puis.
Ouais.
Mais ça a changé, ça a énormément changé, là.
Mais tu vois, c'est drôle que tu dises ça, parce que dans le dernier épisode, on se parlait des doutes. Et Carlo, justement, parlait de l'importance de douter, justement.
Ouais.
Question de ralentir un peu. Or, tu viens de dire le contraire, David, jusqu'à un certain point, tu sais.
Mais Carlo, puis moi, on s'entend pas pantoute.
Non, c'est vraiment
difficile. Ils s'aiment pas.
Mais je vais rajouter Martin dans l'équation. Martin disait, il se rassemble avec son équipe.
Notre invité.
Ben oui, aux 2-3 semaines pour savoir qu'est-ce qui va venir déranger notre marché. Qu'est-ce que les gros joueurs peuvent faire? Qu'est-ce que la compétition peut faire? Puis qu'est-ce que nous, on peut faire pour déranger le marché? C'est ça aussi le next move. C'est remettre en question ce que tu fais, ce que les autres peuvent faire pour pas être pris les culottes à terre. Parce que sinon, surtout pour les petites entreprises, puis on est tous des petites entreprises par rapport aux gros joueurs américains, entre autres, si t'es en plus de pas avoir les mêmes moyens qu'eux, si en plus t'es pas capable de prévenir le coup, ben bonne chance, parce qu'ils ont les moyens de te submerger.
Oui, puis moi, je lis là, en ce moment la biographie de Sam Walton, le président qui a fondé Walmart. Puis à l'époque, dans les années 50, sa grosse compétition, lui, il y avait le magasin général sur telle rue, puis sa grosse compétition, c'est l'autre magasin général sur l'autre rue. Là. Mais aujourd'hui, c'est plus ça pendant tout. T'sais, moi, j'ai une petite entreprise à l'échelle mondiale, mais je regarde quand même qu'est-ce que Amazon y font, parce que faut que je sois capable de me positionner par rapport à ça. Fait que c'est plus juste des petites business, petits commerces entre eux. T'es partout, là, tu regardes le monde.
Oui.
Si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent, puis là, c'est pas moi qui dis ça, là, mais je le dis quand même, il n'y a aucun modèle d'affaires, puis il n'y a aucun modèle d'entreprise, peu importe le secteur d'activité, qui ne sera pas ou qui n'est pas déjà en grand dérangement, entre autres par la technologie.
Et
c'est juste, si tu penses que ton secteur ne sera pas
safe,
touché, c'est parce que tu as la tête dans le sable.
Et en ce sens-là, tu faisais une analogie avec le monde du surf que je trouvais super intéressante.
Oui, parce que c'est comme faire du surf. Puis moi, j'en fais pas, fait que je vais faire une analogie sur le surf. Si c'est sur ta plage de surf, puis tu restes là à rien faire, la vague, tu vas la rater. Il faut que tu pédales, puis que tu pédales, puis des fois, à un moment donné, la vague t'apprend. Puis si tu apprends, tu vas aller beaucoup plus loin. Mais si tu fais rien pour ça, tu vas juste caler, à un moment donné, tu vas te tanner, puis tu vas caler.
Je suis d'accord avec ça, David.
Ben oui, moi, le surf, j'aime ça.
Ouais,
je suis d'accord avec ça, c'est sûr.
Je savais que ça toucherait cette analogie.
C'est certain que je suis d'accord, Carlo, avec celle-là. Tu l'as dit pour moi.
Est-ce qu'il y a une décision, j'ai envie de dire, une vision que vous avez eue, donc un next move que vous avez fait, dont vous êtes particulièrement fier parce qu'elle a contribué à l'essor là, de votre entreprise?
Mais moi, En fait, je dirais que le meilleur move que j'ai fait dans ma vie, c'est de mettre ma business en vente quand j'étais plus heureux. Moi, j'étais plus bien. J'étais à une place parce que je pouvais continuer à grandir, je pouvais aller chercher un investissement, aller chercher plusieurs millions, chercher d'autres mondes sur mon board, puis ouvrir des franchises partout ailleurs au Canada. Puis j'étais comme, c'est plate. C'est rendu justement de l'opération. Il fallait que je sois un opérateur. Puis je pouvais plus là m'amuser à faire des nouvelles recettes. Puis il fallait que je fasse ce que j'ai fait, puis je le répète partout. Puis je trouvais ça tellement boring puis plate que je me suis dit non, la mission, elle m'appelle pas, en fait. Fait que je l'ai mis en vente, puis je l'ai mis en vente vite.
Laquelle, celle-là, excusez-moi?
Ça, c'est la crue d'essence, pardon.
Okay, okay.
Puis j'ai quitté mon poste à Rise aussi, puis j'ai dit non, moi, je veux avoir quelque chose qui me passionne puis qui me fait triper, tu sais. Fait que puis, je pense que c'est ça le plus important. On le dit tout le temps, puis ça paraît cliché, mais ton next move, faut que ça soit qu'est-ce qui te branche aussi, n'est-ce pas?
Ouais.
Fait que oui, il faut que tu regardes la compétition, puis il faut que tu aies du doute, puis il faut que tu regardes sont où les dangers, mais il faut aussi pas que tu prennes des décisions par peur, mais que tu les prennes par amour puis par désir, que ça va être agréable puis le fun à faire. Ouais.
Okay. Puis pas surfer sur des tendances qui te passionnent pas, parce que ça demande tellement d'énergie et d'effort que si ça te passionne pas, tu n'auras plus le goût de ramer sur ta planche de surf pour te rendre à la vague.
Exact. Si tu vas faire quelque chose qui est juste une opportunité d'affaires, mais qui te fait pas triper, c'est sûr que c'est une erreur. Ouais. Garantie. Okay.
Moi, un move dont je suis extrêmement fier, c'est... Moi, j'ai commencé il y a 15 ans. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. J'ai tout appris sur le tas. Tu sais, souvent, je pense que mes gars à moi, là, mon plus vieux à 10 ans, puis un acumen d'entrepreneurs aussi élevé que moi à 20 ans, là, je sais, ou même moi à 30 ans, tellement ils apprennent par osmose. Moi, je n'ai pas vécu ça. Fait que j'ai beaucoup appris sur le tas. Puis j'ai jamais été à l'aise d'avoir des actionnaires ou des investisseurs. Je voulais le faire à ma façon. Fait que ça a été beaucoup plus long. Et on était beaucoup distributeurs. Donc, on distribuait des solutions d'ailleurs. Et là, depuis un an et demi, on est passé de distributeur à concepteur, toujours en restant 100% en contrôle de l'entreprise, sans investisseur externe. Fait que sans investisseur, ça vient avec des défis parce que tu n'as pas les moyens de la croissance extrême. Mais en même temps, ce parcours-là m'amène à maintenant être concepteur. Puis quand tu es concepteur, ben là, tu es en contrôle de ta destinée. Puis le mantra chez Mathémo Monde, c'est beaucoup ça, c'est à partir de maintenant, tout ce qu'on fait, c'est toujours pour être en contrôle de notre destinée et non ne plus être, en guillemets, dépendant de solutions conçues par d'autres, pour lesquelles on est très, très bon partenaire, mais ça vient avec plein de frustration, puis les marges, puis tout ça. Fait qu'en étant en contrôle, puis ça, pour moi, c'est une immense victoire qui n'est pas acquise encore, qui est toujours un work in progress, qui va toujours l'être, évidemment, mais qui est un next move que j'ai entrepris il y a plusieurs années déjà, qui se concrétise depuis un an et demi, puis qui va mener, à mon avis, à la croissance x10 de tout ce qu'on fait.
Okay. Je trouve ça intéressant parce qu'on se parle de décision, de next move depuis tout à l'heure. On se parle aussi beaucoup de passion. Puis pendant que tu parlais, je réfléchissais en même
clairement,
temps.
Clairement, tu m'écoutais pas, mais
oui,
ouais, c'est ça.
Oui, mais moi, je suis capable de faire deux choses à la fois, Carlo. Mais je constatais que, tu sais, toi, c'est l'éducation. Puis c'est vrai ce que vous dites. Je veux dire, tu sais, de ton côté, c'est un peu la même chose. L'alimentation aussi.
Je peux le dire, le recyclage.
Le recyclage, les légumes. et Marie, les vêtements aussi. Donc, tu sais, c'est pas des hasards non plus ce que vous faites. Et c'est pas un hasard s'il y a du succès aussi. Tu sais, il y a de la passion dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes également. Bref,
c'est intéressant ce que tu dis, Patrick.
Ça fait plaisir. je finis avec toi, Marie. Sérieusement, oui. le next move, la décision que tu as prise, dont tu es particulièrement fière.
Ben, tu sais, j'en parlais tantôt quand on a décidé de lancer Jenny. Je me rappelle, il y a un moment avec les développeurs, on s'est dit, OK, on va ouvrir la plateforme au Canada anglais. Puis il me dit, tant qu'à être là, on l'ouvre-tu aux États-Unis? Puis pour vrai, là, j'ai failli chier dans mes shorts. Là. Je me dis, tout le monde disait, c'est pas une bonne idée, tu connais pas le marché, ça va coûter cher. Tu sais, les États-Unis, c'est comme une grosse créature, tu sais, qu'on comprend pas comment ça marche. Puis j'étais comme, man, je veux pas, là. Tu sais, tu veux pas. Comme quand tu t'en vas dans un manège, t'es comme, ah, ça va être le fun. Ça te tente pas.
On est un peu complexé aussi. On a peur un peu.
Oui, puis Québécois, on est beaucoup ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, on va y aller, puis on verra, là. Qu'est-ce qui peut arriver? La business va pas exploser. Puis ça a été une excellente décision, là.
Au bout du compte.
Il n'y a rien de négatif, là.
Tu as rencontré des gens du Dakota, tu vois.
Très intéressant. Ils sont très gentils, les gens du Dakota.
Moi, si je peux partager ma méthode à moi pour le next move, puis c'est très, 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 très simple. Sûrement trop simple, mais moi, ça m'a aidé. J'ai besoin de procédures simples. C'est si ta mission est claire d'entreprise, puis que tu te fixes des grands objectifs, tu n'auras pas le choix d'avoir un next move qui est dérangeant.
Ouais.
Si tu vises 5 %, 10 %, tu vas faire la même affaire. Tu vas dire, ah, ben, je suis capable de faire ça un peu plus, un peu mieux, ça va marcher. Mais si ta mission, dans mon cas, moi, c'est d'amener les gens à leur plein potentiel puis de soutenir la famille puis les élèves, la mission est claire. Puis je me dis, OK, aujourd'hui, on génère 1 million de chiffre d'affaires. Dans 5 ans ou dans 8 ans, on en veut 10 millions. Tu ne peux plus faire la même affaire. La même affaire ne marche plus. La distribution ne marche plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis c'est là que les idées qui valent 10 fois vont émerger. Mais si tu te fixes des petits objectifs, c'est des idées à petits objectifs que tu vas...
C'est d'avoir de l'ambition jusqu'à un certain point aussi.
C'est un moi, je, ouais,
ça fait peur au début, puis rapidement, là, ça éclate dans la tête. Puis okay. Si tu es capable de le faire en groupe avec ton équipe entrepreneuriale ou même des gens de l'externe qui ne connaissent rien de ce que tu fais, mais qui t'amènent des idées qui n'ont pas rapport, mais ça va t'amener plus loin. Puis là, tu vas avoir des idées de next move qui ont du sens.
Puis moi, là, personnellement, là, quand j'ai pas peur d'une idée, c'est que c'est pas assez. T'sais, moi, faut que j'aille peur. Quand j'ai un petit peu peur, je me dis, OK, là, ça va être un gros move. Là. Moi, quand ça sort de ma zone de confort, je me dis, OK, ça va être. On vient de passer à une autre étape. C'est pas le fun, tu y vas, puis c'est correct.
C'est ça, c'est pas le fun quand même. Donc, tu te mets en danger. Là.
C'est rare que tu fais un vraiment gros move, mais que tu es dans ta zone de confort. T'es chill. Là. C'est très rare.
Un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait, tout le monde pense que comme entrepreneur, je prends des risques. Je dis, man, je peux pas prendre des décisions moins risquées que ce que je prends parce que j'ai évalué à peu près tous les risques.
Bon. Oui.
Quand vous prenez cette décision-là, ce next move-là, avez-vous encore des doutes ou si vous êtes convaincu de votre affaire rendue là?
Ben, moi, je suis un peu naïf. Fait que moi, j'ai jamais de doutes. Fait que moi, j'ai un problème mental pour ça. Là. Fait que je saute puis j'y vais.
Oh, non, non,
moi, je fais partie du 30%. Moi, je le savais tout de suite. C'est sûr. Comme nous autres, c'est moi qui est fou. Fait que
le doute. Pas que les gens qui souffrent de maladies mentales aiment le terme fou, mais tu peux continuer.
Non, moi, je suis fou. Puis ce qui fait que, en général, puis je pense qu'on est différents, mais en général, quand je saute dans quelque chose, j'ai pas de doute. J'y vais à fond, puis okay. J'y crois, puis that's it, il n'y a rien derrière moi.
OK.
Mais c'est un peu kamikaze.
Ouais, ça te ressemble quand
mais
même.
Mais tu sais, la différence entre la témérité et la stupidité, c'est que il y a des risques, mais l'entrepreneur ou même la personne intelligente va évaluer les risques, va s'informer, va aller chercher de l'information, va prendre la décision. Tu sais, de l'intuition pure, ça n'existe pas. C'est juste la somme d'informations enfouies dans notre tête puis enfouies dans le cerveau des gens qui remontent.
À part pour l'intuition féminine, t'sais. Ça existe.
Ah,
c'est
d'accord.
Prouvé.
Oui, oui, ça existe. Sûr. Oui.
Sûr. Et là-dessus, je vous amène à mon next move à moi, c'est-à-dire on s'en va vers c'est quoi le problème?
Oh! Oh! Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeants!
C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
La question du public aujourd'hui nous vient de Noémie Foucault, qui est conseillère principale en communication marketing chez Casacom. Carlo, est-ce que tu peux nous lire ça?
Absolument. Vous êtes prêts, tout le monde?
Oui, monsieur. Mm-hmm.
Alors, Noémie veut savoir, quelles sont vos tactiques pour attirer et retenir les meilleurs candidats au sein de vos entreprises? Pour moi, c'est évident. C'est la mission et les valeurs. Tu peux attirer n'importe qui de compétent si ta mission et tes valeurs sont claires puis que ça attire le monde. C'est ça, c'est tellement émotif que les gens sont prêts à accepter des salaires plus bas, sont prêts à accepter des fois un local à Laval et non downtown Montréal ou dans le Vieux-Port parce qu'ils croient à ce que tu veux faire. Puis après ça, il faut les vivre, ces valeurs-là, pour pas déchanter le monde. Là. Mais pour moi, c'est le meilleur élément pour recruter. Après ça, évidemment, il faut que tu évalues les compétences, ouais. On s'entend. Mais c'est extrêmement fort.
À ce point-là.
Okay. Oui.
Très d'accord avec Carlo, mais je me suis rendu compte au fil des années.
Ah, on est d'accord?
Oui, pour la première fois, on est vraiment d'accord. Mais je me suis rendu compte dernièrement que le salaire, ça aide vraiment beaucoup. Puis pendant longtemps, puis surtout dans mes années à Crudescence, je n'avais pas le budget. Puis je disais toujours, on a tellement des belles valeurs qu'on attire vraiment du monde qui veut travailler pour nous pour pas cher. Puis c'était vrai, il y a plein de monde qui avait une baisse de salaire pour venir chez nous. Mais maintenant, aujourd'hui, à Loupe, quand que je regarde un peu, comme tu sais, je veux un directeur d'usine, puis là, je me suis dit, OK, je vais payer un vrai salaire. J'ai vraiment pas la même affaire. Genre, j'ai vraiment une bonne directrice d'usine, pardon. Puis j'ai fait la même chose pour un électromécanicien. J'avais un électromécanicien que je payais pas très cher. Puis là, je me suis dit, OK, en fait, à toutes les fois que je me dis avec ma femme, oh, ce salaire-là est vraiment trop élevé, on peut vraiment pas se le permettre, ça n'a pas de bon sens, on peut pas faire ça, puis qu'on le fait, on ça est rapporte. Vraiment content.
Ouais, ouais.
Genre, ça n'a pas de bon sens comment qu'on est satisfait, puis on n'en revient pas comme la personne, à quel point elle nous en donne, puis qu'on n'est pas osé de la gérer, puis elle se gère tout seul. Fait que ça m'a pris du temps à l'accepter.
Mais est-ce que votre mission et vos valeurs vous permettent malgré tout de mieux recruter peut-être que d'autres compétiteurs dans le même domaine?
Plus maintenant, non. Je pensais que oui, en fait. Puis oui pour le marketing, tu sais, oui pour les vidéos, pour les ventes web, pour ça, mais tu sais, on est une grosse machine d'opération, là, on est une usine, on est ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24 dans l'usine, fait que ça va prendre beaucoup d'humains. Puis c'est du monde que la mission puis tout ça, c'est bien beau, mais le salaire est important quand tu vas travailler en joue la nuit à 4 degrés. T'sais. Fait qu'on a décidé de lever la coche là-dessus, ce que j'avais jamais fait avant, puis ça a changé ma vie, vraiment.
Hey, je trouve ça intéressant parce que je me souviens qu'on a déjà eu ce débat-là où on affirmait qu'effectivement le salaire n'était peut-être pas si important que ça dans l'idée d'attirer les gens et toi t'arrives avec un avis contraire.
Ouais, puis c'est David le hippie qui dit ça ici. Là. C'est, pas, c'est gros. Là.
C'est gros.
Merci beaucoup à tout le monde.
Dans votre calendrier, ouais. C'est gros.
C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com/911.
Les dérangeants! Les Dérangeants.
C'est déjà tout pour ce 7e épisode des Dérangeants. Merci pour votre honnêteté, vraiment, Carlo, David, Marie, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Très, très... Ouais, va te soigner, toi.
Allô.
Ouais.
Un gros merci également à Martin Hainaut. On parle d'honnêteté et de générosité, ouais. Dans son cas, extrêmement important et gentil de sa part. On se retrouve dans 2 semaines, les amis.
Oui, monsieur.
Ouais. Merci beaucoup, tout
à
le
bientôt.
Monde.
À
la prochaine.
Bye.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.
Les Dérangeants!